Le livre de Job. Session 22, discours de Dieu 2, Béhémoth et Léviathan. Et la réponse de Job, Job 40.6 à 41.34. Par John Walton. C'est John Walton et son enseignement sur le livre de Job. C'est la session 22, discours de Dieu 2, Béhémoth et Léviathan, et la réponse de Job, Job 40, 6-41.34. Introduction à la parole de Dieu 2 entre minuit 31 et 1h12. Maintenant, nous arrivons enfin au deuxième discours de Yahweh. Nous allons aller au-delà de l'ignorance des humains pour arriver à l'idée de la façon dont les gens sont censés penser. Il est intriguant que ce message central du livre se trouve dans la partie du livre qui a été considérée comme la plus inaccessible, la plus déroutante, et fondamentalement, les gens baissent les bras et disent qu'ils ne savent pas quoi en faire. Pourtant, il contient précisément ce que le livre veut nous faire penser. On va bien s'amuser avec. Yahweh parle entre 1h12 et 2h31. Nous allons jeter un coup d'œil. Cela commence lorsque Dieu introduit son deuxième discours au verset 6 du chapitre 40. Et encore une fois, Yahweh parle de la tempête. Rappelez-vous ici, si je ne l'ai pas mentionné, Yahweh parle. Ce n'est pas Elohim. Ce n'est pas Shaddai. Ce n'est pas Adonai. C'est Yahweh qui parle. Nous avions Yahweh dans le prologue, et maintenant nous avons des discours de Yahweh à la fin. Encore une fois, cela nous donne une sensation israélite. Job a parlé d'El Shaddai, mais c'est Yahweh qui vient préciser. Et donc, c'est intéressant que Yahweh parle. Ainsi, nous lisons ces premières lignes dans cette adresse à Job, « Prépare-toi comme un homme, je t'interrogerai, et tu me répondras, 47. » Bien sûr, c'est Job qui a posé les questions. C'est Job qui a fait les demandes. Job a essayé de gérer le silence de Yahweh. Et maintenant Yahweh ne vient pas répondre, il vient questionner. Ainsi, Job avait toutes ses questions, et maintenant il n'y en a plus sur la table, pour ainsi dire. Job a mis sa main sur sa bouche. Donc, il a fini de poser ses questions. Maintenant Yahweh va l'interroger. Job remet en question la justice de Dieu entre 2h31 et 4h37. Le verset 8 est très important. Il dit, « Voudriez-vous discréditer ma justice? Me condamneriez-vous à vous justifier ?» Nous pouvons voir alors si cela n'a pas été clair dans les discours de Job, nous pouvons voir que Job a remis en question la justice de Dieu. Yahvé lui-même le dit. Encore une fois, on nous rappelle que Job n'a pas rendu justice à la réputation de Dieu. Job n'a pas bien réagi à tout ce qui s'est passé. Job n'a pas exprimé un bon sens de Dieu. Donc, ici, c'est très clair. Et maintenant, ce que Dieu fait, c'est qu'il défie Job. As-tu un bras comme celui de Dieu, ta voix peut-elle tonner comme la sienne? Te parant de gloire et de splendeur, et revêt-toi d'honneur et de majesté. Déchaîne la fureur de ta colère. C'est comme si Yahweh disait, d'accord, Job, essaie d'être Dieu pendant une journée. Penses-tu vraiment que tu as tout compris comment cela fonctionne? Eh bien, voyons comment tout cela fonctionne. Verset 12. Regardez tous ceux qui sont fiers et humiliez-les, écrasez les méchants là où ils se tiennent. Pensez-vous que c'est ainsi que fonctionne le système, la justice comme fondement? Il dit, cela vaudrait la peine de voir si vous pouviez réellement le retirer. Mais maintenant, il tourne son attention vers les deux créatures, Béhémoth et Léviathan. Il a réprimandé Job pour avoir considéré sa propre justice, la justice de Job, comme une base pour remettre en question la justice de Dieu. Il conteste rhétoriquement la capacité de Job à imposer la justice dans le monde, n'est-ce pas? Job pense que c'est ce que Dieu fait, le principe de rétribution. Dieu met Job au défi d'imposer la justice au monde. Identité de Béhémoth et Léviathan entre 4h37 et 5h44. Et donc, il introduit ces personnages Béhémoth et Léviathan, pour aborder la posture souhaitée que les gens devraient avoir. Commençons par parler de leur identité. Ce ne sont pas des espèces naturelles connues ni aujourd'hui disparues. Je ne vais pas entrer dans les détails là-dessus, mais c'est vraiment assez clair quand on examine les caractéristiques de ces créatures. Ils ne correspondent tout simplement à rien de ce que nous savons. L'élément du Léviathan qui est le plus difficile à associer à une espèce biologique ou éteinte crache du feu. Nous ne connaissons vraiment personne qui fasse cela, aucune créature qui fasse cela. Et donc, dans ce sens, il faut chercher ailleurs. Créatures du chaos entre 5h44 et 11h07. Je dirais qu'ils sont des créatures du chaos. Les créatures du chaos sont une catégorie bien connue dans l'ancien Proche-Orient et très facilement reconnaissable par le public ancien. Ils connaissent parfaitement les créatures du chaos. Léviathan est une créature du chaos connue, non seulement dans d'autres endroits de la Bible hébraïque, mais aussi dans les textes ougaritiques. Les créatures du chaos sont des créatures liminales qui existent à la périphérie du monde ordonné, presque comme un pied et un pied dehors. Ce sont des créatures par excellence dont les caractéristiques abstraites sont partagées par des animaux connus. L'idée que certaines personnes aient vu un semblant d'hippopotame dans Behemoth ou un semblant de crocodile dans Léviathan va seulement jusqu'à suggérer qu'un hippopotame ou un crocodile serait, en quelque sorte, le rejeton de Behemoth ou Léviathan. Leur cohorte est non que Behemoth soit en fait un hippopotame ou que Léviathan soit en fait un crocodile. La catégorie des créatures du chaos est peuplée, comme je l'ai dit, de créatures liminales en quelque sorte sur les bords qui ont été vues, comme le coyote ou le hibou ou l'autruche ou l'hyène, ainsi que des bêtes redoutables seulement vues dans les yeux de l'imagination. Les deux types sont dans cette catégorie de créatures du chaos. Ce dernier groupe, ces bêtes redoutables, n'est pas strictement zoologique. En fait, ce sont souvent des créatures composites. Ainsi, la tête d'un lion, les ailes d'un aigle, des créatures ressemblant à des griffons ou à des sphinx. Ainsi, les créatures du chaos sont souvent composites, mais pas toujours. Les créatures du chaos sont considérées comme ayant été créées par Dieu. Nous voyons cela, en particulier dans Genèse 1, les grandes créatures de l'océan, et dans 1:21. Mais ils représentent le potentiel de non-ordre continu, comme les épines et les chardons dans le domaine moins ordonné en dehors du jardin. Les épines et les chardons sont la preuve du non-ordre, mais ils se trouvent dans un monde partiellement ordonné. Quand Dieu parle du Léviathan dans le psaume 104, il a fait du Léviathan un sport avec. Lorsque les grandes créatures marines sont mentionnées dans Genèse 1:21, elles font partie de la création de Dieu. En fait, Genèse revient et utilise le mot « bara » pour créer, pour la première fois dans Genèse 1, depuis le verset 1, pour le rattacher spécifiquement aux monstres marins, histoire de préciser qu'ils font aussi partie de l'ordre système. Donc, dans un sens, nous pourrions les appeler des créatures anti-cosmos. Ils travaillent en quelque sorte contre le cosmos, mais ils ne sont pas strictement dans le domaine du non-ordre. Ils font partie du monde ordonné, mais ils servent d'agents du non-ordre en vertu de leur nature insensée. Les créatures du chaos ne sont pas moralement mauvaises, mais elles peuvent faire de sérieux dégâts car elles agissent simplement par instinct. Ainsi, dans un sens, nous pourrions comparer à la façon dont nous pourrions penser à une tornade. Ce n'est pas moralement mauvais, mais cela peut causer de graves dommages parce qu'il fait ce que font les tornades. Les créatures du chaos ne sont donc pas des ennemis de Dieu, mais elles peuvent faire des ravages parmi les humains. Tout comme la mer est dans le domaine du non-ordre, elle est contrôlée par Dieu avec ses limites définies. Ces créatures ne sont en aucun cas domestiquées. Pourtant, ils sont sous le contrôle de Dieu. Behemoth est en fait le pluriel du mot « bétail », et il fait référence à l'animal terrestre le plus puissant imaginable. C'est une sorte d'abstraction des animaux terrestres. Léviathan serait la créature marine la plus puissante imaginable. Et donc, le texte les utilise pour caractériser en quelque sorte les créatures du chaos. Et encore une fois, les hippopotames et les crocodiles sont certainement dangereux, et ils peuvent vaguement être considérés comme le rejeton ou les spires de créatures du chaos, comme celle-ci. Rôle de Behemoth et Léviathan en tant que personnages littéraires entre 11:07 et 12:06. Cela dit, nous devons reconnaître que l'identité des créatures n'est pas aussi importante que la reconnaissance de leur rôle littéraire en tant que personnages du livre. L'ancien public aurait reconnu Behemoth et Léviathan. Ils auraient eu des identités liées à eux. Mais quoi qu'il en soit, Behemoth et Léviathan sont utilisés par l'auteur du livre comme des personnages littéraires qui ont un rôle et un but dans le livre. Si nous voulons comprendre le message autoritaire du livre en utilisant ces personnages littéraires, nous devons regarder au-delà des controverses identitaires pour voir comment ils sont utilisés. Créatures du chaos ailleurs dans Job entre 12:06 et 14:08. Les créatures du chaos ont été mentionnées dans le livre à de nombreuses reprises. Donc, en lisant le livre, nous les avons déjà vues. La complainte de Job au chapitre 3 parlait de ceux qui étaient prêts à affronter Léviathan en 3:8. La première réponse de Job à Eliphaz a demandé pourquoi Dieu le traitait comme une créature du chaos. C'est en 7:12. Là, il utilise le mot hébreu tanim, qui est le même mot hébreu dans Genèse 1:21. Job a l'impression d'être traité comme une créature du chaos parce que Dieu le garde sous sa garde. Maintenant, cela correspond à ce que nous savons dans l'ancien Proche-Orient. Les dieux de l'ancien Proche-Orient étaient connus pour tenir en laisse les créatures du chaos partiellement domestiquées et les utiliser à leur fin, même s'ils représentaient ce domaine du non-ordre. Ainsi, Job suggère que Dieu lui-même agit alors comme une créature du chaos au chapitre 30, versets 15 à 23. Dieu ne traite pas Job comme une créature du chaos autant qu'il demande à Job de jouer le rôle de Behemoth. Dieu n'agit pas comme une créature du chaos. Au lieu de cela, il est de loin supérieur au Léviathan et devrait être reconnu comme tel. Maintenant, cela introduit, je crois, comment Behemoth et Léviathan sont utilisés dans le texte. Encore une fois, Job a accusé Dieu d'agir comme une créature du chaos, et Dieu dit, oh, non, c'est pire que ça. C'est plus grand que ça. Et donc, nous allons nous faire expliquer cela au fur et à mesure que nous observons ce qui est dit. Nous devons analyser Behemoth et Léviathan, non pas pour leur identité mais pour leur rôle littéraire. Behemoth et Job comparés entre 14h08 et 16h08. Ainsi, lorsque nous ouvrons au chapitre 40, verset 15, Dieu dirige l'attention de Job sur Behemoth. Regardez Behemoth, puis faites attention à la ligne suivante. Regarde Behemoth, que j'ai fait avec toi. Job et Behemoth sont regroupés. Dieu a créé les deux. Il est intéressant de noter que lorsque nous parcourons cette brève section traitant de Behemoth, cela passe par le verset 24, donc 15 à 24. Yahweh ne parle ni de Job ni de lui-même comme faisant quoi que ce soit à Behemoth. Au verset 15, Behemoth est content et bien nourri, comme Job l'a été. Vous vous souvenez que 15 ont introduit la comparaison. Ainsi, Behemoth est content et bien nourri comme Job l'a été. De 16 à 18, Dieu a rendu Behemoth fort comme il a fait Job. Au verset 49, Behemoth se classe au premier rang de son espèce, tout comme Job. Cela a été identifié en 15, 7. Au verset 20, Behemoth est pris en charge, comme Job l'était. Dans 21 à 22 du chapitre 40, Behemoth est abrité comme Job l'était. En 23, maintenant ça commence à faire une transition 23 et 24, la fin de la section Behemoth. En 23, Behemoth n'est pas alarmé par la rivière déchaînée. L'inférence ou l'implication est plutôt, et vous ne devriez pas l'être non plus. Il fait confiance et est en sécurité, comme vous devriez l'être. Il ne peut pas être capturé ou piégé, auquel vous devez également être invulnérable et vous être montré résistant. Le verset 24 parle de « Quelqu'un peut-il le capturer par les yeux, ou le piéger et lui percer le nez ?» Le mot pour « nez » est le mot pour la colère. Et ne peut pas être percé, c'est un mot difficile dans le texte, cela signifie parfois « nommer » ou « désigner » ou « pénétrer ». Encore une fois, l'idée est là à laquelle vous devriez être invulnérable. Behemoth est comparé à Job. C'est introduit dès le premier couplet. Après tout ce que nous avons lu sur Behemoth, nous devrions le comparer à Job. C'est ainsi que fonctionne cette section. Job devrait alors être comme Behemoth. Rappelez-vous que Job s'était plaint, « Vous me traitez comme une créature du chaos. » Ici, le discours dit, « Eh bien, vous devriez être un peu plus comme une créature du chaos à cet égard. » Nous y reviendrons. Yahweh est plus grand que Léviathan entre 16h08 et 22h44. Passons au Léviathan. Une section plus longue, et encore une fois prêtons attention à ce qu'elle dit et à ce qu'elle ne dit pas. Les 8 premiers versets utilisent la forme à la deuxième personne. Peux-tu faire ceci? Peux-tu faire cela? Est à la deuxième personne. Se concentrer sur ce que Job peut et ne peut pas faire au Léviathan. Avec un peu, je pense plus qu'un peu à l'idée, si vous ne pouvez pas faire ces choses au Léviathan, tirez-le avec un hameçon, attachez sa langue, passez une corde dans son nez, d'accord. Demandera-t-il pitié? Sera-ce doux avec vous? Pouvez-vous conclure un accord avec lui? Pouvez-vous en faire un animal de compagnie? Si vous ne le feriez pas avec Léviathan, pourquoi vous attendriez-vous à le faire avec Yahweh? Pourquoi t'attendrais-tu à le piéger? Épinglez sa langue, passez un accord avec lui et domestiquez-le. Pourquoi le feriez-vous? Le passage à la deuxième personne suggère que Léviathan doit être comparé à Yahweh. Donc, 41, 3, est-ce qu'il continuera à te supplier d'avoir pitié? C'est en quelque sorte ce que Job voulait que Dieu fasse. Versets 10 et 11, personne n'est assez féroce pour le réveiller. Qui donc est capable de se dresser contre moi? Qui a une créance contre moi que je dois payer? Yahweh lui-même fait le lien entre lui et le Léviathan. Pas tant qu'il est comme Léviathan, mais qu'il est tellement plus grand que Léviathan. Si vous ne pouvez pas agir ainsi envers Léviathan, Pourquoi diable penseriez-vous que vous pouvez agir envers Yahweh de cette manière? Cette section ne parle jamais de ce que Dieu fait au Léviathan. Pourtant, tant d'interprètes sont allés dans cette direction. Cela ne parle pas du contrôle de Yahweh sur Léviathan. Il ne parle pas de la victoire de Yahweh sur Léviathan. Nous avons une autre sorte de déclaration faite ici. Au chapitre 41, au fur et à mesure que nous parcourons ces informations, Léviathan ne peut pas être contrôlé, et Yahweh non plus. Léviathan ne se soumettra pas ou ne demandera pas grâce, Yahweh non plus. Léviathan ne peut pas être blessé ou maîtrisé. C'est sans espoir de lutter contre lui. Il en est de même pour Yahweh. Nous lisons la comparaison pure et simple en 10 et 11, « Personne, y compris toi, n'a de droit contre moi, Job. » De 12 à 18, « Vous ne pouvez pas lui forcer à ouvrir la bouche pour recevoir la bride. » Comprenons-nous cela? Qu'est-ce que Job a essayé de faire? Il a essayé d'atteler et de brider Yahweh. Yahweh ne peut être ni contrôlé ni domestiqué. Il n'est pas apprivoisé. De 19 à 25, Léviathan est dangereux lorsqu'il est énervé, tout comme Yahweh. 26 à 32, Léviathan est invulnérable, tout comme Yahweh. Verset 33, aucune créature n'est son égale. Cela implique, bien sûr, que Job n'est pas l'égal du Léviathan, et encore moins l'égal de Yahweh. Verset 34, Léviathan domine tous ceux qui sont fiers. Comparez cela à l'ouverture de ce discours dans 11 à 14, où Dieu dit à Job, vous savez, armez-vous, dominez ceux qui sont mauvais. C'est Léviathan qui domine tous ceux qui sont fiers. Job ne peut pas humilier les orgueilleux au chapitre 40, versets 11 et 12. Il ne peut pas non plus soumettre le roi aux orgueilleux, 41, 34. Dieu est aussi le roi des orgueilleux dans ce sens. Il règne sur eux. Tout cela discute de ce que Job ne peut pas faire au Léviathan. Ce sont aussi des choses que Job doit apprendre qu'il ne peut pas faire à Yahweh. Donc, ce que Job doit apprendre, et c'est ce que nous devons tous apprendre, nous ne pouvons pas domestiquer Dieu. Rôle des créatures du chaos dans le message du livre entre 22h44 et 24h19. Ainsi, le rôle de ces créatures dans le message du livre, tout d'abord, elles ne sont pas décrites comme l'incarnation du mal cosmique. Un interprète a même suggéré qu'ils sont équivalents aux challengers au début du livre. Je le vois presque totalement à l'opposé de cela. Aucune des créatures n'est décrite comme maléfique, aucune des créatures ne représente Azatan, le challenger, et elles n'assument pas non plus le rôle ou la position du challenger dès les premiers chapitres. Ils ne sont pas décrits de telle manière qu'ils puissent servir de preuve de la capacité de Dieu à maîtriser les menaces à l'ordre dans le monde et à apporter la justice cosmique. Le texte ne les traite tout simplement pas de cette façon. Il ne les présente pas ainsi. Il n'y a aucune référence au fait que Dieu les a soumis. Alors, comment peuvent-ils témoigner de la soumission de Dieu, du non-ordre? Nous devons suivre ce que dit le texte. La justice cosmique n'est ni en jeu ni le résultat de ce que Yahweh est censé faire. Le livre n'affirme pas que Dieu apporte la justice soit au cosmos dans son ensemble, soit à l'expérience humaine. Le livre ne fait pas cette affirmation. C'est l'affirmation que Job et ses amis voulaient faire à travers le principe de rétribution. Pas sur la justice entre 24h19 et 24h52. Le premier discours de Yahweh indiquait comment Job ne devait pas penser. Le deuxième discours indique comment Job devrait penser. Dans aucun de ces discours, Yahweh n'aborde la justice de Job ou sa propre justice. Cela contient le plus proche que nous ayons d'un message explicite, ce à quoi nous nous attendrions dans le discours culminant de Yahweh. Les humains devraient faire confiance comme Behemoth le fait 24, 52 à 25, 47. Le point soulevé concernant Behemoth implique sa stabilité dans les eaux déferlantes. Behemoth n'est pas juste. Léviathan n'est pas juste. Behemoth ne peut pas être déplacé. Léviathan ne peut pas être défié. Yahweh ne les vainc pas et ne les exploite pas pour montrer sa supériorité sur eux. Ils sont utilisés comme illustrations à partir desquelles les humains peuvent tirer des leçons importantes. Les humains devraient répondre aux rivières déchaînées avec sécurité et confiance, comme le fait Behemoth dans cette présentation littéraire. Les humains ne devraient pas penser qu'ils peuvent domestiquer ou défier Yahweh puisqu'ils ne peuvent pas défier ou domestiquer Léviathan, qui est inférieur à Yahweh. Les humains ne peuvent apprivoiser le Léviathan ou Dieu, réponse de Job 25, 47-27, 10. La deuxième réponse de Job au chapitre 42, versets 2 à 6, montre qu'il comprend les arguments de Yahweh. Je vais le lire rapidement. Je sais que tu peux tout faire, aucun de tes objectifs ne peut être contrecarré. Encore une fois, cela signifie que Job ne peut pas l'apprivoiser ou le domestiquer à ses propres fins. Tu as demandé, qui est celui-ci qui obscurcit mes plans sans le savoir? Remarquez obscurcir les plans de Dieu ici, Job a obscurci les plans de Dieu parce qu'il a indiqué que les plans de Dieu étaient de mettre en œuvre le principe de rétribution pour ordonner le cosmos selon la justice. Cela concerne les plans de Dieu. Qui obscurcit les plans de Dieu sans connaissance? J'ai sûrement parlé de choses que je ne comprenais pas, de choses trop merveilleuses pour que je les sache. Merveilleux est, fondamentalement, c'est au-delà du niveau de rémunération humaine. Vous ne pouvez pas le comprendre. Rétractation et soumission d'emploi 27, 10-30, 47. Tu as dit, écoute maintenant, et je parlerai, je t'interrogerai, et tu me répondras. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me méprise et me repens dans la poussière et la cendre. Encore une fois, pour moi, cela montre qu'il reconnaît avoir été présomptueux dans ce qu'il pensait savoir. Il se rétracte et il se soumet. Ce n'est pas comme sa première réponse où il vient de dire, j'ai fini de parler. Il se rétracte et il se soumet. Le mot hébreu ici pour trop merveilleux pour moi, des choses que je ne connaissais pas. Le mot hébreu pel fait référence à des informations dans le royaume divin qui dépassent l'entendement humain. Sur le mot repentez-vous. Disons un peu à ce sujet. C'est au verset 6, repentez-vous dans la poussière et la cendre. C'est la forme niphale du verbe. Il se distingue des autres mots qui peuvent être traduits par « se repentir ». Eliphaz l'avait exhorté à se repentir. C'était le mot « shuv », faire demi-tour, changer de direction, changer de comportement. Ici, Job ne suggère pas de changement de comportement mais souhaite plutôt retirer ses déclarations précédentes. Il emploie la même forme verbale que celle utilisée lorsque Dieu change d'avis dans des passages comme Exode 32, 14, Jérémie 4, 28, Jérémie 18, 10, Joël 2, 13 et Jonas 3, 10. Par conséquent, tous les passages intrigants que, malheureusement, nous ne pouvons pas prendre le temps d'aborder. Beaucoup de ces occurrences ont lieu dans des situations impliquant des regrets. C'est une expression de regret. Dans les déclarations de Job, il regrette ses déclarations précédentes. Sa caractérisation de Dieu est une croyance présomptueuse en sa propre compréhension, ses défis arrogants. C'est ainsi que nous comprendrions le regret de Job. La déclaration ici ouvre également d'autres questions. Lorsqu'il est utilisé avec la préposition « al » comme ici, cela signifie généralement reconsidérer quelque chose ou, plus souvent, oublier quelque chose, tout oublier. Dans ce verset, nous pourrions suggérer que c'est quelque chose qu'il chasse de son esprit. C'est de la poussière et de la cendre, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il sait, eh bien, dit-il, se repentir concernant « al ». Alors, il chasse de son esprit cette poussière et cette cendre. Ce n'est pas se repentir avec de la poussière et de la cendre. Ce n'est pas la préposition ici. Au contraire, il reconsidère toute la question de la poussière et de la cendre, et il chasse la poussière et la cendre de son esprit. Il a donc annoncé la fin de son deuil, et il a accepté sa réalité. Importance de Béhémoth et Léviathan 30, 47-31, 29. On voit alors que Béhémoth et Léviathan sont des personnages extrêmement importants dans la mise en forme du livre. Il ne s'agit pas d'hippopotames et de crocodiles. Il ne s'agit pas de dinosaures. Il ne s'agit pas de savoir si nous parlons de mythologie ou de choses de ce genre. Il ne s'agit même pas de créatures du chaos bien qu'elles le soient. Il s'agit de la façon dont ces créatures sont représentées et de la façon dont cela constitue un message pour Job et pour nous tous qui lisons le livre. Et nous aborderons ces problèmes au fur et à mesure que nous passerons à d'autres segments. C'est John Walton et son enseignement sur le livre de Job. C'est la session 22, Discours de Dieu 2, Béhémoth et Léviathan, et la réponse de Job, Job 40, 6-41, 34. 31, 29.